Protégez vos biens, vos proches et votre voisinage avec l'assurance habitation de Sunwa Assurance qui vous propose Priorité Santé. Sunwa Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Diarandiaï.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Priorité Santé. À l'occasion de la journée mondiale contre l'AVC, l'accident vasculaire cérébral qui a lieu ce 29 octobre, notre émission vous propose de revenir sur ce véritable problème de santé publique. AVC, trois lettres pour une pathologie aux multiples visages, trois lettres dont nous avons quasiment tous entendu parler. Pourtant, si le grand public savait mieux reconnaître les signes d'alerte d'un accident vasculaire cérébral, de nombreuses vies pourraient être sauvées, car les chiffres sont là, implacables et nous rappellent une triste réalité. Chaque année en France, 140 000 personnes sont victimes d'un AVC et il cause 6,7 millions de décès dans le monde chaque année. Les accidents vasculaires cérébraux constituent la première cause de mortalité chez la femme et la première cause de handicap physique des adultes dans les pays développés. Des statistiques qui font froid dans le dos. Et cet accident vasculaire cérébral survient lorsque le flux sanguin rencontre un obstacle qui bloque son passage vers les différentes parties du cerveau. Cerveau qui est donc privé de son apport vital en oxygène. Quels sont donc les différents types d'AVC? Quels sont les facteurs de risque? Comment le reconnaître et que faire en cas d'AVC? Quels sont ces signaux d'alerte et comment améliorer la prévention? Pour en parler, je suis en ligne avec Isabelle Florentin, victime d'un AVC. Elle est également au conseil d'administration de France AVC. Bonjour Madame Florentin.
Bonjour, bonjour à tous.
Il y a aussi à mes côtés Dr Tristan Miro, médecin interniste et médecin vasculaire à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris et à l'hôpital Corentin Salton, ici les Moulineaux.
Bonjour. Bonjour à tous.
Bonjour également au docteur Alexis Schlitzer, il est médecin physique et réadaptation à l'hôpital Raymond Poincaré à Garches en région parisienne.
Bonjour.
Et nous retrouverons au Congo docteur Abdoul Sarr, cardiologue et spécialiste des maladies cardiovasculaires à la clinique Louise Michel à Pointe-Noire au Congo. Et en fin d'émission, nous parlerons du stent avec le professeur Laurence Pell, chef du service de neuroradiologie interventionnelle à l'hôpital Bicêtre en région parisienne. Et vous, chers auditeurs, n'hésitez pas à nous appeler au 33 1 80 82 75 75.
Priorité santé sur RFI.
Docteur Tristan Miro, j'ai commencé en introduction un peu à décrire cet AVC en parlant du cerveau qui est privé d'oxygène. De quoi s'agit-il plus précisément ?
Bien, effectivement, comme vous en avez déjà parlé, le cerveau, c'est un organe, hein, comme tous les organes qu'on a dans le corps humain, et qui a besoin de sang pour fonctionner. Le sang apporte de l'oxygène, apporte des nutriments. Et quand on a en fait une interruption du flux sanguin, eh bien le tissu qui est en aval de cette interruption va souffrir. Et donc il va y avoir effectivement ce qu'on appelle un infarctus, qu'on peut avoir sur d'autres organes, comme j'ai dit, le cœur par exemple, hein, c'est connu, on parle d'infarctus du myocarde. Eh bien au niveau cérébral, l'accident vasculaire cérébral ischémique, c'est un infarctus du cerveau à cause d'une artère qui s'est bouchée. Et donc les conséquences effectivement sont le fait que le tissu va mourir parce qu'il n'est pas alimenté par le sang et il va y avoir des séquelles neurologiques secondaires à cet infarctus.
Il y a également l'AVC hémorragique.
Et donc cela c'est une minorité de ces AVC, hein, en France en tout cas c'est un peu moins de 15% des formes d'accidents vasculaires cérébraux qui sont d'origine hémorragique. Et là, cette fois, c'est pas le vaisseau qui se bouche, mais c'est le vaisseau qui saigne. Et donc, il y a un hématome, une hémorragie qui se fait à l'intérieur de la boîte crânienne dans le cerveau.
Docteur Schlitzer, c'est une pathologie qu'on redoute tous, hein, cette AVC. On rappelle qu'elle touche tout le monde et que le monde arrive à n'importe quel moment. Pardon. Comment reconnaître les symptômes ou les signes avant-coureurs?
Alors il y a une diversité de symptômes qui peuvent apparaître au décours de l'AVC. La priorité c'est de reconnaître le visage qui tombe, c'est-à-dire que le visage est asymétrique, la lèvre tombe, et puis c'est quelque chose d'assez brutal. Dans le même temps, il y a le bras qui a du mal à bouger et des difficultés de parole. Généralement, c'est les premiers signes qu'on peut détecter.
Et si l'un des signes est là, il faut agir vite, mais que faire exactement quand on soupçonne un AVC? On entend parfois qu'il faut faire répéter une phrase ou tester l'équilibre à la personne en question.
Quand il y a un signe brutal, neurologique, il faut appeler les urgences, donc le 15 en France, isoler le patient, le mettre au repos. Et ensuite, tout s'enclenchera très rapidement. Aujourd'hui, en France, on est plutôt bien organisé pour qu'assez rapidement, les patients puissent bénéficier d'une prise en charge aiguë optimale.
Et quand on voit ces signes, est-ce que c'est déjà trop tard ?
Quand on voit ces signes, il commence à y avoir des dégâts dans le cerveau. Chaque minute qui passe, c'est une minute de dégâts en plus. Donc, il faut avoir en tête que l'urgence, c'est d'aller vite.
Docteur Tristan Miro, dites-nous quels sont les facteurs de risque de ces AVC ?
Alors, il faut bien voir déjà quelle population est affectée. Hein. C'est quand même essentiellement des hommes. En France, hein, il y a un rapport récent de la Haute Autorité de Santé en 2016 qui donnait l'âge moyen de 70 ans chez l'homme et 75 ans chez la femme. Ça, c'est la population qui va être atteinte par les accidents vasculaires cérébraux. Et donc, cette population-là, en fait, elle est exposée aux facteurs de risque dits classiques, hein, des maladies cardiovasculaires. Donc, je vais les lister et puis on y reviendra après plus en détail. Mais en un, il y a l'hypertension artérielle. Il y a également le cholestérol élevé, le diabète, l'obésité, le surpoids, la sédentarité. Et donc la sédentarité, en fait, c'est le manque d'activité physique hein, régulière, un mal de nos sociétés occidentales. Et puis l'âge. Puisque, évidemment, avec l'âge avançant, on est plus exposé aux maladies cardiovasculaires en général et à l'accident vasculaire cérébral en particulier.
On a une question sur ces facteurs de risque. Richard nous interpelle sur Facebook et demande « Est-ce que le stress conduit à l'AVC ?»
Alors, il y avait une grande étude mondiale qui avait étudié justement les facteurs de risque sur les maladies cardiovasculaires en général et le stress en fait partie. Alors après, c'est difficile de caractériser qu'est-ce que le stress. Mais en tout cas, c'est évident qu'il y a des facteurs en fait qui vont s'associer et qu'on sait très bien que le stress à la fois professionnel ou même familial, personnel, l'endettement par exemple, va aussi être associé à des conduites qu'on appelle addictives, c'est-à-dire des consommations d'alcool ou des consommations de tabac. Et que de ce fait-là, effectivement, on va avoir une augmentation du risque des maladies cardiovasculaires, mais le stress, indépendamment des autres, est effectivement un facteur de risque qu'il faut prendre en compte.
Docteur Schlitzer, on parle des facteurs de risque. Les hommes et les femmes partagent des facteurs communs comme l'alcool qu'on vient de citer. Mais pourquoi les hommes sont plus touchés ?
Consommation de tabac, essentiellement. L'hypertension, probablement aussi, hein, chez l'homme qui est un peu plus prévalent.
Alors, il y a les femmes qui ont moins d'AVC, mais elles sont touchées plus jeunes. Cela dit, elles ont des risques spécifiques. Et quels sont
les risques spécifiques de la femme? Les risques spécifiques de la femme sont essentiellement au niveau de l'hypertension, que je sache, et puis des problématiques hormonales aussi, qui favorisent le fait qu'on fasse des AVC ischémiques ou hémorragiques.
Docteur Tristan Miro, j'ai vu qu'il y avait aussi des AVC pédiatriques. Alors, c'est rare, j'ai vu que c'était rare, moins d'1% des cas. C'est étonnant?
Donc, ce qu'il faut voir dans les accidents vasculaires cérébraux, donc j'ai dit en introduction, en France en tout cas, on est à un peu plus de 85% de formes dites ischémiques, donc un vaisseau qui s'occlut, et 15% de formes hémorragiques. Et après, quand on regarde les causes de ces accidents vasculaires ischémiques, finalement, vous avez 25% dont on ne connaît pas la cause du tout, 25% dont en fait l'origine, c'est un caillot qui est formé au niveau du cœur, par exemple, qui va migrer, qui va, ce qu'on appelle un embole, donc qui va partir dans la circulation systémique et notamment au niveau des artères cérébrales. Ou 25%, c'est les vaisseaux à l'intérieur du cerveau qui s'occluent. Et il reste vraiment une minorité, moins de 5% de causes rares, dans lesquelles il y a notamment les dissections des artères qui vont toucher les vaisseaux du cou, les artères carotides qui alimentent le cerveau. La dissection, c'est un feuilletage, si vous voulez, comme un millefeuille. La paroi de l'artère va se séparer en deux. Et c'est, notamment, ça touche plus les femmes que les hommes, jeunes. Mais ça reste une minorité des cas. Et puis, il peut y avoir des causes encore plus rares qui peuvent toucher les enfants, effectivement. Et dans ces cas-là, évidemment, c'est dramatique. Et n'oublions pas aussi l'hypertension artérielle chez l'enfant, hein, qui est une maladie qui existe, avec des causes diverses qui peuvent être souvent, évidemment, liées à des sténoses d'artère ou d'origine endocrine. Mais en tout cas, l'hypertension artérielle de l'enfant peut s'accompagner d'un accident vasculaire.
On a la chance hein, d'avoir avec nous dans Priorité Santé sur RFI Isabelle Florentin qui a été victime d'un AVC. Merci de témoigner, Madame Isabelle Florentin. Isabelle, vous avez été victime d'un AVC en 2000. Vous aviez 36 ans. Racontez-nous ce qui s'est passé ce jour-là.
Oui, bien écoutez, je me suis levée. J'étais fort heureusement à la maison parce que mon métier faisait que j'étais en général par mons et par vos. Et heureusement, j'étais à la maison ce jour-là. Je me suis levée, j'ai voulu préparer mes enfants pour les emmener à l'école. Et dans leur chambre, je me suis sentie mal, comme si j'allais avoir un malaise vagal. Et puis je suis tombée. Et le père de mes enfants est venu vite parce que ma fille aînée qui avait 6 ans, mes enfants avaient 5 et 6 ans à ce moment-là, ma fille aînée était surprise, elle a vite appelé son père en lui disant que j'étais tombée et que je m'étais fait mal. Et mon mari donc est arrivé et il m'a dit ça va pas et je lui ai simplement demandé m'aider à aller jusqu'à la fenêtre. J'avais besoin d'air, j'avais besoin de respirer. Et en fait, je me rendais pas compte, mais je devais avoir déjà une paralysie de la moitié du visage parce que tout de suite, il m'a dit non, ça va pas du tout, j'appelle les pompiers. Et donc voilà, et en fait, en effet, j'avais la bouche, comme disait le docteur tout à l'heure, la bouche de travers et je pouvais plus correctement articuler.
Et Isabelle, donc, comment avez-vous été pris en charge à ce moment-là?
Eh bien, écoutez, les pompiers sont venus à l'époque, donc parce que mon mari avait appelé les pompiers, et alors qu'aujourd'hui on incite les gens à faire le 15, hein, surtout hein, comme il a été dit tout à l'heure, il y a des filières spéciales maintenant qui sont réalisées. Moi, donc mon mari a appelé les pompiers. Les pompiers m'ont emmené en urgence passer une IRM dans l'hôpital le plus proche, et en me sortant de l'IRM, on m'a dit on vous emmène à Marseille puisque j'étais donc dans un hôpital à Toulon. On vous emmène à Marseille pour on va vous faire une intervention. Et en fait, j'ai su plus tard que on parlait de thrombolyse, mais en fait à Marseille, le médecin qui m'a reçu m'a dit que c'était trop expérimental et qu'ils avaient eu peur sur le moment de faire plus de dégâts que ce qu'il y avait déjà dans mon cerveau, quoi.
Du coup, à ce moment-là, c'est quand que vous avez su que vous aviez fait un AVC, Isabelle?
Oui, bah écoutez, à l'hôpital à Marseille, donc en fin de matinée, mais en fait, je me souviens même pas avoir entendu le mot AVC, mais en fait, j'étais quand même un petit peu dans un état plus très... Pas que j'étais pas consciente, mais en fait, je réalisais pas. Déjà, je savais pas ce qui m'arrivait. J'avais pas conscience que je ne pouvais plus marcher. J'étais paralysée. Tout le côté gauche était paralysé. Mais en fait, je m'en suis pas rendu compte tout de suite. J'ai été branchée. Enfin, on m'a mis des perfusions, des tas de choses. Et j'étais clouée dans ce lit. Et en fait, très fatiguée. J'avais très, très mal à la tête. Et voilà. Donc, j'avais pas réalisé. Mais je me souviens pas à ce moment-là d'avoir entendu le mot AVC.
Et combien de temps a duré votre hospitalisation?
Alors l'hospitalisation, dans un premier temps, a duré 15 jours, 3 semaines, presque 3, non 15 jours on va dire, à Marseille. Et dès qu'une place en centre de rééducation s'est libérée, je suis revenue sur un centre ailleurs, dans le Var, et voilà. Et là, en rééducation, j'ai été hospitalisée 3 mois plein, puis je suis restée 2 ans en hospitalisation de jour, pour continuer ma rééducation.
Et lors de cette rééducation, vous preniez un traitement médicamenteux également?
Oui, bien sûr. Eh bien, dès l'arrivée à l'hôpital, hein, on m'a mise sous Préviscan au départ. Et puis voilà, et ça continue depuis. Enfin, j'ai changé de traitement, je suis sous Cardégique maintenant. C'est un changement... un fluidifiant sanguin pour éviter justement que je refasse une récidive, parce qu'en fait ça c'est quelque chose aussi dont on n'a pas conscience au départ. On a un AVC, d'accord, mais on n'a pas conscience qu'on peut en avoir un autre. Et je vois beaucoup de gens ne pas continuer leur traitement parce qu'ils se sentent mieux, et puis c'est vrai que c'est un petit peu difficile parfois de prendre tous les jours un médicament, et selon les anticoagulants, il faut faire des tas de prises de sang, de vérifications, et c'est un peu fastidieux. Donc forcément, il y a des gens qui pensent qu'ils sont à l'abri d'un deuxième AVC et malheureusement arrêtent trop tôt leur traitement.
Isabelle, vous continuez donc ce traitement et vous êtes retournée à la maison après cette rééducation. Comment avez-vous vécu votre retour à la maison?
Eh bien, le retour à la maison, ça n'a pas été très facile de quitter cette équipe soudée qui était l'équipe du centre de rééducation, où on avait vraiment un soutien. Bon, il faut dire aussi que moi, je parle ça, l'ambiance à la maison, l'ambiance familiale s'était dégradée fortement avec l'AVC. Elle n'était pas au top avant l'AVC et l'AVC n'a fait que dégrader l'ambiance familiale. Donc le retour à la maison a été un petit peu difficile. Et puis au niveau du handicap, pas tant que ça, parce que finalement j'avais une maison assez pratique, mais j'ai eu de la chance, je pouvais aller dans ma maison, aller venir dans ma maison au rez-de-chaussée, en tout cas en fauteuil roulant. Et puis bon, mais ça c'était les premiers temps. Mais quand je suis rentrée définitivement à la maison, je marchais avec une canne, donc je pouvais monter les escaliers. Mon papa m'avait simplement installé des rampes, une rampe dans la montée d'escalier, chose que je n'avais pas jugée nécessaire avant mon AVC, bien sûr. Après, bien on a des adaptations à réaliser.
Un retour donc difficile, Isabelle, des changements dans votre quotidien. Est-ce que la reprise professionnelle a été possible ?
Eh bien non, moi j'étais hôtesse de l'air, donc forcément je n'ai pas pu, en restant hémiplégique à gauche, vous imaginez bien que je n'ai pas pu reprendre le chemin des aéroports et des avions, et voilà, non, j'ai pas pu reprendre mon travail.
Et aujourd'hui, est-ce que la rééducation se poursuit encore ?
Oui, elle devrait. Enfin, jusqu'à l'an dernier, je poursuivais le kiné. Je vais maintenant chez un kiné en libéral, quoi. Donc, mais actuellement, comme j'ai beaucoup d'activités, j'ai repris beaucoup d'activités, pas professionnelles, mais beaucoup de bénévolat. Je n'ai plus des études et je n'ai plus le temps de caser une heure pour le kiné. Donc, il faut que j'arrive à trouver un moment, mais normalement je devrais continuer le kiné, oui.
Et Isabelle, aujourd'hui, comment vous vous sentez ?
Je me sens déjà vivante. Et ça, c'est important, parce que bon, souvent, je l'ai dit, j'étais pas toujours là pour tous les événements quand mes filles étaient petites, les dents qui poussent, les enfants qui marchent, l'autonomie. Et bien, quand mon AVC est arrivé, elles avaient 5 et 6 ans, et quand je fais des témoignages, et bien, je le dis que j'ai toujours été là pour les passages de petites souris. Après, c'était important, finalement, c'est pour ça, c'est l'essentiel, c'est d'être encore là pour le dire, pour témoigner, pour essayer justement de parler de prévention, parce que c'est possible, et parler de tout ça, des signes, ça peut permettre à d'autres d'éviter d'avoir un AVC, justement avec toutes les conséquences, tous les handicaps qui s'ensuit. Donc c'est important.
C'est important, c'est important effectivement de parler de prévention. Docteur Miro, on a entendu le témoignage d'Isabelle Florentin avec beaucoup de choses très intéressantes. Je vous ai vu réagir énormément autour de ce témoignage. Dites-nous, qu'est-ce que vous pensez du parcours d'Isabelle ?
Eh bien, il est assez symptomatique de plusieurs aspects. D'abord, effectivement, l'urgence de la prise en charge initiale. C'est pour ça que cette journée aussi est là, pour rappeler que nous tous, personnalités civiles, avons un rôle à jouer dans la détection précoce et le fait de tirer la sonnette d'alarme, hein, c'est-à-dire de prévenir les services de secours le plus vite possible devant un signe ou quelques signes qui doivent faire évoquer un accident vasculaire cérébral, parce que le temps est compté pour la mise en place des traitements spécifiques de l'accident vasculaire. Il faut transporter le patient dans un centre où on peut effectivement faire une imagerie du cerveau, donc un scanner peut suffire, et qui va déterminer déjà si l'accident vasculaire est hémorragique ou pas, parce que effectivement c'est un élément important, même si c'est pas la majorité des cas, il convient de s'assurer que il n'y a pas de saignement à l'intérieur du crâne et que ce soit bien un accident vasculaire ischémique. Et une fois que ce diagnostic est posé, effectivement on peut instaurer un traitement, en tout cas en France et dans les pays développés. Je pense qu'effectivement, on pourra voir que c'est une des limites dans les pays en voie de développement, c'est l'accessibilité à ce type de molécules, mais on peut avoir accès à un traitement donc qu'on appelle la thrombolyse, ce qu'a décrit Mme Florentin, c'est qu'effectivement, et c'est des médicaments mis en perfusion sur une heure qui vont détruire, si vous voulez, le caillot qui s'est formé, le thrombus, l'occlusion qui s'est formée dans le vaisseau. Et il faut bien avoir à l'esprit que plus ce type de traitement donc spécifique est introduit tôt après le début des symptômes, meilleurs sont les résultats. Et qu'on a vraiment une course contre la montre. À l'heure actuelle, l'idéal est de pouvoir le faire dans les 3 heures qui suivent le début des symptômes. C'est pour ça qu'il est toujours important de noter l'horaire des premiers symptômes. Dans les 3 heures, jusqu'à 4h30, ça c'est ce que donnent les recommandations. Et puis il y a des techniques un peu nouvelles, on en parlera en fin d'émission, mais qui permettent d'aller parfois un peu jusqu'à 6 heures. Mais on voit qu'au-delà de 6 heures, malheureusement, il n'y a plus de traitement spécifique. On va être dans le suivi des conséquences et la prise en charge des conséquences de l'ischémie du cerveau.
Docteur Alessi Sigler, vous avez entendu hein, le témoignage d'Isabelle. C'est très difficile, hein, de cet AVC. Même le diagnostic a été difficilement posé. Bon, c'était il y a 15 ans, plus de 15 ans d'ailleurs. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire autour de cet AVC qu'a eu Isabelle?
C'est un parcours assez classique, excusez-moi, de la personne qui a eu un accident vasculaire cérébral avec des décours au décours de cet AVC. J'insisterai peut-être sur la prise en charge rééducative, hein, moi, médecin de médecine physique et de réadaptation. Ce qui ressort de ce témoignage, c'est vraiment ce sentiment de prise en charge globale qu'a vécu Mme Florentin au décours de son AVC, avec deux périodes qui sont un peu séparé, hein, cette période aiguë où tout va très vite, où il y a une urgence vitale, où on a très peur de mourir. Et puis, après, la période des séquelles, la prise en charge des séquelles, et cette chance qu'on a en France aujourd'hui de pouvoir passer plusieurs mois hospitalisé en rééducation, puis plusieurs années en hôpital de jour, puis faire de la rééducation à la maison, c'est une vraie chance.
Quand on doit débuter cette rééducation, justement?
Dans les 12 premières heures, c'est extrêmement rapide, il faut aller le plus vite possible. Après, il faut savoir mettre les priorités, c'est-à-dire que la priorité est aux techniques de revascularisation ou de neurochirurgie, mais dès qu'on a passé cette priorité qui concerne l'urgence vitale, le plus vite possible, on met les gens au fauteuil, on les fait parler, on est actif pour stimuler le cerveau, moindres seront les séquelles.
En parlant justement de ces séquelles, quand parle-t-on de séquelles définitives ?
Il faut avoir en tête que dans les suites d'un AVC, il y a 3 grandes étapes. La première étape, dans les premières heures où se constitue la destruction des cellules neurologiques. Une deuxième étape, dans les premiers mois où, au sein de cette zone du cerveau qui a souffert, il y a des cellules qui sont abîmées, qui ne marcheront plus, parce qu'il n'y a pas de processus de cicatrisation dans le cerveau. Elles ne peuvent pas se remplacer, les cellules. Donc il y a des cellules qui sont abîmées, qui ne marcheront plus jamais. Et puis des cellules qui sont endormies, choquées par ce qui s'est passé. Et ces cellules, elles mettent plusieurs mois à se réveiller. Une fois, alors il n'y a pas de date anniversaire, c'est pas au bout de 3 mois, il n'y a plus une cellule. Voilà, on voit les progrès qui se font de façon assez rapide dans ces premiers mois, puis au bout d'un moment, les progrès qui vont plus doucement. Et dans un troisième temps, ce qui permettra de continuer à faire des progrès, c'est plutôt de l'ordre de la plasticité cérébrale, c'est-à-dire c'est les cellules qui sont bien vivantes, qui vont essayer de faire le travail des cellules qui ne marchent plus, mais c'est difficile de demander à une cellule de faire le boulot de 5 millions de cellules.
Si je comprends bien, en fait, durant les AVC, ça dépend, les séquelles dépendent de la partie du cerveau ou qui a été touchée.
Les signes cliniques et les séquelles dépendent de la zone du cerveau qui a été touchée. Ça peut être, par exemple, la zone du bras gauche, du bras droit, de la jambe, du langage, de l'intelligence, de la mémoire. Toutes les zones du cerveau peuvent être touchées. Les progrès, en revanche, se font toujours sur une cinétique qui est à peu près la même.
Et l'âge dépend aussi le fait de pouvoir récupérer mieux.
Dans les facteurs pronostiques des séquelles d'accident vasculaire cérébral, plus l'AVC est important, plus il y a un risque d'avoir des séquelles importantes. Meilleur on était en état avant, moins on a de risque d'avoir des séquelles importantes. Et donc maintenant, on parle beaucoup d'âge physiologique. Voilà, il y a des gens qui sont 85 ans, qui sont en pleine forme et qui courent le marathon. Et puis des gens de 50 ans qui ont le cerveau qui est déjà très abîmé par la vie, par l'alcool, par le tabac.
On va partir tout de suite au Congo où il est 10h34. Et nous rejoignons au Congo, docteur Abdoul Sarr, bonjour.
Bonjour à tous.
Vous êtes cardiologue et spécialiste des maladies cardiovasculaires à la clinique Louise Michel à Pointe-Noire au Congo. Le Congo n'est pas épargné par ses AVC. Quels sont les premiers réflexes des Congolais quand on leur parle de cette maladie?
Bon, en général, l'AVC, comme l'a dit précédemment mes collègues, en fait, la première cause, c'est l'hypertension artérielle. Et la difficulté de l'hypertension artérielle, c'est que c'est une maladie qui est silencieuse. Donc, et les gens qui font l'AVC, en fait, qui ont une perte d'une fonction, en fait, pensent beaucoup plus à un problème supranaturel. C'est de la sorcellerie à laquelle on pense d'abord, ce qui fait que les patients pensent plus à aller voir un passeur plutôt qu'à venir au médecin, voir le médecin. Donc, c'est ça qui rend un peu difficile la prise en charge, en fait.
Ah, du coup, j'imagine, docteur, que les patients ne viennent pas vous consulter à temps.
À temps, directement, en fait. Donc, c'est fait que, on a des difficultés pour prendre en charge rapidement ces malades-là.
Et quelles sont les difficultés rencontrées au niveau du diagnostic quand, justement, le patient arrive?
Voilà. Donc, c'est l'un des éléments sur lesquels on essaie de se battre parce que, comme ils ont dit tout à l'heure, en fait, le temps, c'est du muscle. Donc, comme on est en cardiologie, c'est la même chose en neurologie. En fait, plus le temps passe, plus on a des difficultés à récupérer. Donc, et la principale, la prise en charge dépend beaucoup plus du diagnostic parce qu'avant de mettre un traitement, il faut qu'on fasse la part des choses. Est-ce que c'est un AVC ischémique? C'est un AVC hémorragique? La principale difficulté dans nos pays, c'est de pouvoir faire l'imagerie, le scanner. Donc moi, si je reçois un patient ce matin, pour avoir les résultats d'un scanner, il faudra que j'attende 24 heures. Et c'est ce qui rend difficile la prise en charge, en fait. Donc ce sont les principales difficultés que nous avons.
Et la principale difficulté au niveau de la rééducation, quelle est-elle?
Bon, il n'y a pas vraiment de centre de rééducation dans nos pays. Le service de neurologie s'est battu à avoir des assistants qui font la rééducation, mais en fait, c'est la famille qui le fait beaucoup plus. Donc, quand nous sortons les malades de l'hôpital, donc on essaie de donner des conseils pour pouvoir faire la rééducation à la maison. Donc, il n'y a pas de centre adapté vraiment pour faire la rééducation des patients dans nos services.
Donc, une rééducation difficile. Est-ce qu'il y a, cela dit, des moyens de prévention ou des messages, en tout cas, mis en place au Congo pour alerter la population autour de ces accidents vasculaires cérébraux?
Effectivement, nous essayons de demander aux patients, en fait, bon, en fait, faisant des campagnes de dépistage des principaux facteurs de risque de cette affection, qui est l'hypertension artérielle, en demandant aux uns aux autres de se faire contrôler la tension une à deux fois par an. Et au cas où il y aurait des signes, peut-être une perte brutale de langage ou un déficit, de se rendre rapidement à l'hôpital pour pouvoir être pris en charge rapidement.
Docteur Abdulsar, vous parliez tout à l'heure de croyances, en tout cas populaires, autour de cette sorcellerie qui prévaut au lieu d'aller voir un médecin. Est-ce que vous avez un message à faire passer à nos auditeurs?
Donc, c'est de se dire que devant toute perte brutale des fonctions vitales, c'est-à-dire qu'à savoir, comme je dis tantôt, un langage ou autre chose, de dire que c'est une maladie qui vient d'origine silencieuse, l'hypertension ou les troubles du rythme qu'on rencontre fréquemment. En cas de signe de perte de langage ou de perte d'une fonction, c'est-à-dire qu'une paralysie qui commence à s'installer, immédiatement dans un centre. Donc, malheureusement, l'autre difficulté que nous avons beaucoup plus à Pointe-Noire ou dans nos pays, c'est qu'il n'y a pas assez de spécialistes. Nous sommes 6 cardiologues pour toute la ville et 2 neurologues pour toute la ville. Donc, ce qui rend encore un peu plus difficile la prise en charge de ces malades-là.
Merci, docteur Abdulsar, d'avoir participé à notre émission. Je rappelle que vous êtes cardiologue et spécialiste des maladies cardiovasculaires à la clinique Louise Michel à Pointe-Noire au Congo.
RFI à Brazzaville. 93.2 FM.
On va tout de suite se rendre au Cameroun où Patricia est en ligne avec nous. Patricia, bonjour. Patricia n'est pas en ligne, mais Jo Berthier est avec nous, direction Kinshasa. Kinshasa, on vous écoute.
Bonjour.
Bonjour Jo Berthier.
Bonjour.
Oui. Oui, bon, moi je tiens déjà à préciser que la maladie ne me concerne pas, mais ça concerne plutôt ma mère. Et l'événement a eu lieu l'année passée, en juillet 2017. On était un vendredi, si je me rappelle bien, et pendant que ma mère dormait paisiblement, et au milieu de la nuit, elle se réveille brusquement. Elle a eu juste envie d'aller dehors et se soulager. Elle n'arrivait plus du tout à bouger sa jambe, la jambe droite et son bras droit. Elle n'arrivait plus à le bouger et elle a appelé mes sœurs, parce que moi, je n'étais pas là. Elle a appelé mes sœurs pour l'aider à s'y relever. Bon, dans ces moments-là, on ne savait pas ce qui se passait. Du coup, que 4 mois avant, elle était hospitalisée. Elle avait déjà des problèmes d'hypertension. Et juste 4 mois après avoir été hospitalisée, et l'événement s'est produit, elle a eu l'accident la nuit. Donc, elle a eu la paralysie de la jambe droite et les bras droits. Et jusqu'à là, elle a suivi des traitements et une séance de kiné. Bon, mais ce qu'on constate, et juste après, maintenant ça doit déjà faire plus ou moins 7 à 8 mois. Bon, son bras, ça va déjà, son bras s'est rétabli peu à peu, mais par contre pour sa jambe, il n'y a pas vraiment beaucoup d'évolution. Donc pour ça, je voudrais comprendre ce qu'on a peut-être raté ou ce qu'on doit faire pour essayer de guérir sa jambe, ou parce que je constate déjà que c'est une séquelle, mais je ne sais pas, les séquelles peuvent un jour partir, si je peux dire.
Docteur Schitzer, la question de Joe Barty est intéressante. Hein. Donc, sa mère a eu un AVC. Aujourd'hui, sa jambe reste gonflée et reste paralysée, finalement. Il se demande, est-ce qu'il y a autre chose à faire pour améliorer le mouvement de cette jambe? Est-ce que c'est paralysé définitivement?
Donc, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, vraiment, on est dans la deuxième période, c'est-à-dire dans le cerveau, et des cellules qui ne marchent plus. Et donc, c'est les cellules bien vivantes qui ont essayé de faire le travail des cellules qui ne marchent plus. Les progrès sont constants, vont lentement, mais sont constants. Et on est dans une période où la rééducation en tant que telle n'est pas la priorité. La priorité, c'est de stimuler le cerveau. Le cerveau, il est stimulé au décours des activités de la vie de tous les jours. Et donc, si pour cette maman, j'avais un conseil à donner, c'est pas évident de faire de la kinésithérapie, c'est de marcher le plus possible, d'être active le plus possible, dans les limites des capacités qu'on a, et plus on fera, plus on sera amené à pouvoir faire.
Joe Barty, est-ce que vous avez d'autres questions?
Non.
Merci en tout cas de votre appel, et bonjour à nos auditeurs de Kinshasa. On va prendre en ligne Arafa, qui nous appelle de Ouagadougou. Arafa, bonjour.
Bonjour. Oui, bonjour, Priorité Santé. Moi, c'est Arafa et j'appelle du Ouagadougou, j'ai 31 ans. Ma question est que, en peur de l'AVC, je buvais l'alcool avant, j'ai arrêté de boire l'alcool. Bon, je fume en moyenne un paquet par jour. J'arrête au maximum de consommer du sel et les cuves magiques maintenant. Bon, je ne sais pas si. D'avoir les AVC maintenant.
Docteur Miro. Docteur Miro, qu'est-ce qu'on peut répondre à Arafa?
Oui, bonjour Arafa. Mais écoutez, je pense que c'est une très bonne chose à 31 ans de vouloir se prendre en main comme cela et changer ses habitudes. On l'a vu, la prévention finalement des maladies cardiovasculaires, c'est l'hygiène de vie. C'est-à-dire avoir une activité physique régulière, faire du sport, si on fume, arrêter le tabac. Donc, j'ai noté que vous fumiez encore, n'est-ce pas?
Oui, je fume encore. Je fume en moyenne un paquet par jour.
Voilà, et malheureusement, on sait que le tabac est un grand pourvoyeur, en fait, de maladies cardiovasculaires, à la fois l'accident vasculaire cérébral, mais également l'infarctus du myocarde au niveau du cœur, et également l'artérie des membres inférieurs. Et donc, la lutte contre le tabac dans ce futur mois de novembre, là, dans quelques jours, qui est le mois sans tabac, est vraiment une lutte importante aussi pour les maladies cérébrovasculaires. Et puis, vous avez noté que vous diminuez la consommation de sel. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment?
Oui, bon, souvent quand on sort et c'est pas dans la rue, je ne consomme pas du sel. Si je prépare et je ne mets pas du sel, je ne mets pas du cuivre magie. Bon, j'ai arrêté aussi boire de l'eau fraîche.
Et donc, vous notiez les cubes, effectivement, épicés, qui sont de la marque,
pour la santé.
Qui sont très salés. Et effectivement, l'alimentation salée est très associé à l'hypertension artérielle. Et donc, on sait que la réduction de la consommation de sel diminue les chiffres de pression artérielle, donc prévient indirectement la survenue des accidents vasculaires cérébraux.
Éviter de manger trop gras, trop salé, trop sucré, finalement.
Mais c'est vrai que le sel, notamment parce que ça permet d'éviter la déshydratation, etc. Et donc, c'était très utile à une époque où, effectivement, on avait peu de ressources en eau. Mais maintenant, effectivement, même en Afrique, l'accès en fait, à l'alimentation, à l'eau est plus disponible. Et on voit, malheureusement, hein, c'est un rapport de l'OMS que j'avais noté en préparant cette émission, mais que ce qui a tout frappé les pays occidentaux, le surpoids, le diabète, l'hypertension artérielle, frappe désormais les pays en voie de développement. Et donc, ne nous copiez pas et changez désormais vos habitudes alimentaires.
Rafa, en tout cas, essaye, c'est une bonne chose. En tout cas, bon courage à vous et merci pour votre appel. Docteur Miron, on a aussi Charlie qui nous a posé une question. Est-ce que cette maladie est héréditaire? Comment l'éviter? Alors, l'AVC.
Donc, non, l'accident vasculaire cérébral, c'est pas une maladie génétique, au sens où on pense héréditaire. Hein. Après, l'hérédité, ça a d'autres formes. Ce n'est pas que transmis par les gènes, un gène particulier que notre mère ou notre père peut nous transmettre, mais c'est aussi un terrain génétique qui va favoriser effectivement ce dont on n'arrête pas de parler depuis le début de l'émission, l'hypertension artérielle, le diabète. Et on sait que le diabète, par exemple, du sujet un peu plus âgé, le diabète de type 2, est héréditaire en tant que tel. Il n'y a pas un gène en particulier, mais quand on a dans sa famille quelqu'un qui a du diabète, on est plus à même de faire du diabète, et c'est pareil pour l'hypertension artérielle.
On a Vital aussi, docteur Schitzer, qui nous interpelle et nous demande à partir de quel âge peut-on faire un AVC? Comment reconnaître les signes d'un AVC? Bon, on va rappeler, c'est important.
Donc l'âge, on peut faire un AVC dans l'enfance, hein. On peut avoir le petit enfant qui naît, peut faire un AVC, alors c'est quelque chose qui arrive, et donc après ça a des séquelles sur toute la vie. La moyenne d'âge de l'AVC est plutôt âgé, hein, c'est entre 70 et 75 ans, mais il y a une telle incidence de l'AVC, si on compte entre 100 et 150 000 AVC tous les ans en France, il y en a à peu près 20 à 25% qui ont moins de 60 ans. Donc vous avez quasiment plus d'AVC de la personne jeune de moins de 60 ans que de paraplégiques, par exemple, d'accidents de la route en France.
Oui, parce que j'ai vu qu'il y avait 25% des AVC qui surviennent avant 65 ans. Quels sont les facteurs en cause à ce moment-là?
Alors on est plus souvent sur des facteurs qui sont soit de l'ordre de la rupture d'anévrisme, hein, le fameux vaisseau qui va saigner dans le cerveau, parce que constitutionnellement, on avait une fragilité au niveau d'un cerveau, soit l'association pilule-tabac chez la femme, hein, qui fait des AVC chez la personne jeune, et puis enfin, des pathologies du cœur avec des troubles du rythme qui font des petits caillots dans le cœur qui vont après monter dans le cerveau.
Et quand c'est justement ces AVC arrivent aux alentours de la trentaine, est-ce que dans ces cas, les séquelles sont moindres?
C'est une question qui est assez difficile parce que elles sont moindres si on regarde le volume des AVC. Quand on a 85 ans, qu'on a déjà plein de comorbidités, qu'on est déjà en situation de handicap et qu'on fait un AVC en plus, ben on est plus handicapés. Mais nos personnes jeunes qui font des AVC sont souvent des AVC qui sont soit assez importants, soit avec des séquelles qui d'apparence sont moins importantes, comme avoir du mal à se concentrer ou des petits trous de mémoire. Mais quand on a 30 ans, qu'on a des trous de mémoire, qu'on est au travail, on perd son emploi et donc c'est une véritable catastrophe en termes de handicap.
Et est-ce qu'on progresse dans la recherche au niveau de la récupération?
En termes de rééducation, là où on a le plus progressé, clairement, c'est sur les toutes premières heures qui suivent un AVC, avec des techniques de revascularisation, de prise en charge aiguë. Sur la phase subaiguë, la phase subaiguë commence à 6 heures, donc c'est extrêmement tôt dans le subaigu, on s'aperçoit que la priorité est à la stimulation, que le volume de stimulation est très important, c'est-à-dire il faut avoir 2 à 3 heures de stimulation qu'on peut faire par de la rééducation, donc la kinésithérapie, l'ergothérapie, l'orthophonie, la neuropsychologie, la psychomotricité, mais qui peut se faire aussi dans le cadre, dans des activités un peu plus ludiques, récréatives, des activités sportives, et puis toutes les techniques d'adaptation, c'est-à-dire que à un moment, il faut savoir se dire les progrès vont continuer, mais vont être très lents, et donc adapter le monde professionnel, l'environnement, aux possibilités de la personne.
En parlant d'environnement, j'aimerais rebondir autour de l'entourage justement de ces personnes qui ont eu un AVC. Le moral des patients est souvent au plus bas. Tout à l'heure, Isabelle Florentin a mentionné des difficultés familiales avant et après cet AVC. Quels conseils on pourrait donner à l'entourage? Ensuite, on demandera à Isabelle également son point de vue.
Quand il y a un AVC dans la famille, en particulier chez les gens jeunes, c'est un un accident de la vie, mais pour tout le monde, hein, pour les familles proches, les maris, les femmes, les enfants, les parents, chez les gens qui sont assez jeunes. La prise en charge, comme le disait Mme Florentin, c'est une prise en charge qui est globale quand on arrive dans une structure de rééducation. C'est pour ça qu'il faut insister beaucoup pour que les gens soient orientés sur les structures de rééducation. C'est pas faire de la kiné, la rééducation, c'est cette prise en charge, on va s'occuper de la famille, on va s'occuper des patients, et on va accompagner tout le monde, pas dans un processus de deuil, parce que j'aime pas ce mot-là, mais dans l'acceptation d'une nouvelle vie, d'une nouvelle façon d'avoir une qualité de vie, malgré des difficultés. Et ça, tout le monde est acteur, les professionnels médicaux, paramédicaux, les familles comme les patients.
Ah, Isabelle Florentin, j'aimerais justement que vous réagissiez, vous, autour de cette question de l'entourage. Quel conseil pour que justement ces personnes atteintes d'AVC soient mieux et bien entourées ?
Eh bien, c'est difficile parce qu'on est tous différents et bien sûr, l'entourage, les aidants, la famille réagit différemment. Tout le monde n'est pas préparé à de telles choses. Même la victime elle-même, hein, je veux dire, un accident, c'est bien quelque chose qui survient brutalement. Donc on n'est pas préparé à ça et l'entourage non plus. Mais c'est difficile. Bon, moi, vous voyez, dans mon entourage, bon, j'avais de la chance d'avoir une maman qui était infirmière, donc qui était très prévenante et qui m'aidait et qui pensait bien faire, qui m'aidait toujours trop même. Mais mon mari, lui, a très mal pris la chose et alors que mes filles, au contraire, étaient très très aidantes aussi. Elles n'ont pas été effrayées par le handicap ni la maladie, au contraire, bien au contraire, puisque la plus jeune de mes filles, quand je suis revenue à la maison, elle se bagarrait pour venir dormir à tour de rôle avec moi. Et le premier soir où la petite est venue dormir avec moi, elle m'a dit, tu sais maman, c'est bien maintenant, t'es handicapée, mais t'es là toutes les nuits. Et parce qu'avant, bon, bien sûr, avec mon métier d'hôtesse de l'air, j'étais très souvent absente et elle devait en souffrir à l'époque. Et finalement, eh ben, que je sois handicapée, c'était pas grave du tout, j'étais là toutes les nuits.
Heureusement, vous êtes avec elle.
Voilà.
On va arriver à la fin de cette émission à Isabelle Florentin. Est-ce que vous avez un message à laisser aujourd'hui à l'occasion justement de cette journée de l'AVC où on peut parler de cette pathologie grave ?
Eh bien, le message, c'est surtout réagir rapidement, essayer de reconnaître rapidement un AVC et réagir en appelant le 15. Avoir ce réflexe de l'appel du 15 qui maintenant dirige les personnes victimes d'AVC vers des centres neurovasculaires qui peuvent intervenir en urgence, donc faire ces actes médicaux dont on parlait tout à l'heure, la thrombolyse, thrombectomie, toutes ces choses qui peuvent éviter un maximum de séquelles. Donc ça, c'est très très important, quoi.
Merci beaucoup Isabelle Florentin.
Priorité santé sur RFI.
Les perspectives de progrès en termes de traitement des AVC sont encore immenses. On continue de parler des AVC dans Priorité Santé. En termes d'avancée, on pense notamment à la neuroradiologie interventionnelle, NRI, une spécialité médicale nouvelle qui révolutionne le traitement des AVC sans avoir recours à la chirurgie. Et pour en parler, je suis en ligne avec le professeur Laurence Pall. Bonjour.
Oui, bonjour madame.
Alors, vous êtes chef du service de neuroradiologie interventionnelle à l'hôpital Bicêtre en région parisienne, comment la neuroradiologie interventionnelle améliore la prise en charge des AVC ?
Eh bien, elle l'améliore de deux manières. Nous traitons les maladies des vaisseaux du cerveau en entrant dans les vaisseaux du cerveau par l'artère au niveau du pli de l'aine. Et donc, on est capable soit de boucher des anévrismes qui sont responsables d'une hémorragie. Hein, c'est ce qu'on appelle les AVC hémorragiques. Je pense que cela a été dit, ça ne représente qu'environ 15 à 20% des AVC. Mais surtout, il y a eu une révolution il y a maintenant 3 ans en Europe de l'Ouest et en Amérique du Nord et qui va se répandre. C'est la possibilité d'extraire le caillot qui obstrue l'artère du cerveau par une intervention qui s'appelle une thrombectomie.
Alors justement, la pointe de la technologie est utilisée pour combattre ces AVC. Parlez-nous de ce fameux stent qui est parfois utilisé sur les patients victimes d'AVC. Qu'est-ce que c'est ?
Donc il s'agit d'un petit filet qu'on va venir déployer au travers du caillot et grâce à un matériau à mémoire de forme qui s'appelle le nickinol, qui est un alliage de nickel et de titane, il va reprendre la forme qu'on lui a donnée à la température de 37 degrés, qui est la température du corps humain. Et donc ce petit filet va se s'enchevêtrer dans le caillot qui obstrue l'artère cérébrale. Il va être extrait en tirant dessus.
Et ces micro-cathéters sont aussi utilisés pour soigner d'autres types de pathologies. Quelles sont-elles ?
Vous avez tout à fait raison. Donc, il y a d'autres sortes de stents qui sont des stents à maillage extrêmement serré qui permettent de traiter les anévrismes. Et le matériel dont on dispose à l'heure actuelle est de plus en plus petit et permet de traiter des artères de plus en plus fines, c'est-à-dire de plus en plus éloignées dans l'arbre vasculaire cérébral.
Mais de quoi justement sont faits ces stents ? Comment on les fabrique ?
Alors ces stents, ils sont faits pour la plupart dans des entreprises. Une grande partie est faite à la main puisqu'il y a une phase de tressage avec des fils de nickinol, comme je vous le disais, qui est cet alliage, et que cet alliage n'est pas visible au rayon X. Et donc on introduit, plutôt le fabricant introduit au sein de ces micro-stents des marqueurs en platine qui permettent de les visualiser.
Alors, beaucoup d'espoir hein, autour de cette prise en charge post-AVC, ou en tout cas, vous avez un message à faire passer, professeur Laurence Pell, à l'occasion de cette journée contre les AVC ?
Oui, moi je voudrais absolument passer le message que, premièrement, il faut appeler dès qu'il y a un déficit neurologique, c'est-à-dire une paralysie, pour une raison que j'ignore. Les gens ne paniquent jamais lorsqu'il y a une paralysie d'une fonction cérébrale. Pourquoi ? Parce que ça ne fait pas mal et ça donne pas de sensation de mort imminente comme peut le faire l'infarctus du myocarde. Le deuxième message, il faut appeler parce que maintenant il y a des techniques totalement révolutionnaires qui permettent aux gens, dans la moitié des cas, de reprendre une vie normale sans aucune séquelle. Donc ce sont des techniques d'une puissance extrême qu'il faut déployer le plus rapidement possible.
Merci beaucoup, professeur Laurence Pell. Je rappelle que vous êtes chef du service de neuroradiologie interventionnelle à l'hôpital Bicêtre en région parisienne. Docteur Tristan Miro, on a parlé de beaucoup de choses hein, aujourd'hui autour de ces AVC, ces accidents vasculaires cérébraux. Cette année, on a placé justement cette journée autour de l'ensemble de la population puisque tout le monde est concerné, il faut le rappeler.
Oui, et il y a un acronyme simple dont chacun devrait se rappeler,
vite.
C'est qu'effectivement il faut faire vite. Et donc V pour le visage qui peut, comme on le disait tout à l'heure, en fait être paralysé, donc la lèvre qui pend ou la moitié du visage. I comme l'incapacité à mobiliser un membre, le bras, une impotence au niveau de la main. T en fait pour les troubles du langage ou le trouble de la parole. Et donc quand on a le visage et ou la possibilité de bouger un membre et ou un trouble du langage, eh bien il faut en urgence, c'est le E, appeler le 15 pour qu'une équipe se déplace et prenne en charge le patient tout de suite. Donc ça fait vite. Et il y a le même acronyme en anglais qui est FAST pour Face, Arm, Speech and Time. Et donc tout le monde peut donc retenir ces acronymes facilement.
Donc
et,
vite, appeler le 15. Priorité santé touche à sa fin. Merci à mon équipe, à Victor Hu, Lassé Toussamaké et Ophélie Lassène. Merci à mes invités, Isabelle Florentin qui siège au conseil d'administration de France AVC, docteur Tristan Miro, médecin interniste et médecin vasculaire à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris et à l'hôpital Corentin Celleton ici à Issy-les-Moulineaux, et docteur Alexis Schlitzer, médecin physique et réadaptation à l'hôpital Raymond Poincaré à Garches en région parisienne. Demain, dans Priorité Santé, nous parlerons du psoriasis. Si vous voulez témoigner, appelez-nous 33 1 84 22 75 75.
C'était Priorité Santé avec Sunwa Assurance qui vous propose l'assurance habitation pour protéger vos biens, vos proches et votre voisinage. Sunwa Assurance, notre métier, l'assurance.